le micro du soir, Aïch la RFI.
Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous allons faire une petite pause. La semaine dernière, nous avons discuté avec la politologue Sylvia Marton des résultats du premier tour de l'élection présidentielle et nous ferons l'analyse des résultats du second tour la semaine prochaine avec une autre politologue, Raluca Alexandrescu. Mais ce soir, je vous propose de souffler un peu, de parler d'autre chose. Nous accueillons Patrick Ouriagli, que certains d'entre vous connaissent. Il co-dirigea à Bucarest l'association d'insertion par l'activité économique Ateliere Fara Frontiere avec son épouse Raluca de 2009 à 2019. Après un passage sur l'île de la Réunion, région française d'outre-mer située à l'est de Madagascar, Patrick Ouriagli réside aujourd'hui à Nice où il poursuit le développement d'une entreprise de valorisation des biodéchets, activité qu'il a démarrée depuis la Réunion. Patrick Ouriagli, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis ravi de vous retrouver à travers le micro du soir et je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui vous connaissent seront ravis d'avoir de vos nouvelles après tous ces voyages. Alors, nous allons bien évidemment parler de votre travail actuel, mais en premier lieu, j'aimerais savoir, et je pense que d'autres qui nous écoutent aimeraient savoir comment vous allez, comment vous vous sentez à Nice après deux années passées à La Réunion et surtout après plus de 10 ans passés à Bucarest.
Eh bien, merci. Ben, ça va très, très bien. Ça y est, le printemps arrive, les beaux jours aussi. À Nice, en effet, ben, c'est ma ville natale. Donc, c'est un retour aux sources. Et j'en suis content pour ça, retrouver la famille et les amis proches qui sont ici. Après, en effet, pas mal de déplacements et d'endroits différents, comme ben, après la Roumanie, la Réunion. Et voilà, ben, donc, très content d'être ici, en tout cas.
D'accord. Et donc, avant de parler de votre activité actuellement, La Réunion, vous êtes resté là-bas pendant 2 années, c'est ça à peu près ?
Un peu plus, non, presque 4, 3
ah
ans
oui.
et demi.
D'accord.
On est parti en 2019, fin 2019, on est arrivé début 2020 à La Réunion, juste avant le Covid, hein, janvier 2020. Et après, on est revenu à Nice en 2023, mi-2023, donc il y a 3 ans et demi. À La Réunion.
Alors, allons-y. Parlez-nous de votre activité en ce moment, hein, de cette entreprise de valorisation des biodéchets et comment elle se porte là où vous vous trouvez.
Oui, alors, donc les alchimistes, c'est un réseau qui a été créé à Paris en 2016, donc c'est presque 10 ans, par un ami et un cofondateur, donc un ami Alexandre Guilluy, qui était lui-même dans l'aventure Ateliers sans frontières, dont on reparlera probablement. Et du coup, nous, ou plutôt moi, j'ai rejoint cette initiative à partir de 2018. On commençait à avoir envie de partir un peu loin, de voir, de découvrir de nouveaux horizons avec mon épouse, avec Raluca. Et en ayant suivi les débuts avec Alexandre de cette entreprise, des alchimistes, puisque nous-mêmes, chez Ateliers sans frontières, Ateliers sans frontières, on avait une ferme, on a toujours une ferme d'ailleurs, sur laquelle on faisait du compost. On s'intéressait au sujet, je m'intéressais beaucoup au sujet. Donc, quand j'allais à Paris, j'allais voir ce qu'ils faisaient. Et il y a eu une opportunité qui s'est ouverte à La Réunion, parce qu'il y avait pas mal de demandes sur cette île, de solutions pour valoriser les déchets alimentaires en particulier, qui débordent, on ne sait plus trop quoi en faire, mais on trouvait des solutions pour les valoriser en local. Ça avait du sens. Donc je suis parti une première fois en 2018 pour voir si ça avait un intérêt, s'il y avait vraiment des choses, des pistes. Et ensuite, j'y suis retourné à plusieurs reprises, et puis on a décidé en 2019 d'y aller. On est parti début 2020. Donc, c'est une entreprise sociale, hein, qui a été créée en 2016 à Paris, et puis après, c'est des porteurs de projets locaux, moi donc à La Réunion, et puis ici, où je suis maintenant, où j'ai rejoint l'équipe de Côte d'Azur par des porteurs de projets qui sont basés à Toulon. Il y en a un petit peu partout en France, presque 30 agglomérations maintenant, avec ce même modèle qui est de valoriser les déchets alimentaires pour nourrir les sols. Donc, raison d'être de cette entreprise, une entreprise sociale qui a donc un fort engagement sur ce sujet qui est le nôtre, qui sont les sols. Donc, régénérer les sols qui sont au même titre que les océans, ou avec, on parle des forêts aussi beaucoup, mais on parle aussi des sols qui sont un levier très fort pour lutter contre le réchauffement climatique, tout simplement parce que ils sont un gros puits de carbone potentiel. C'est-à-dire que les sols vivants peuvent séquestrer, on dit, ou capter le carbone de manière très efficace et lutter très efficacement contre le réchauffement climatique. C'est un peu le point de départ de ce mouvement, de cette idée, de se dire, OK, comment faire pour remettre de la vie dans les sols? Comment faire pour régénérer les sols? Il y a plein de techniques pour le faire. On parle d'agriculture régénératrice. Je pense que vous en avez déjà parlé sur votre antenne aussi.
Oui, effectivement, avec Patrick Valmarie, oui. Je pense peut-être que ça vous dit quelque chose.
Oui, j'ai entendu ce podcast. Mm-hmm. Tout à fait, oui. Et donc, le compost, c'est une des façons de faire. C'est vieux comme le monde, mais à part bien sûr quelques personnes à la maison, de manière très, microscopique, mais plein de petites initiatives personnelles. C'est quelque chose qu'on ne faisait plus, qu'on ne fait plus. En tout cas, l'agriculture utilise très peu. Et on s'est dit que c'était vraiment dommage. Et comment faire pour avoir un trait d'union entre ces quantités incroyables de biodéchets qui sont jetés et qui, alors en Roumanie, je sais pas où ça en est, mais à l'époque c'était vraiment pas grand chose qui était valorisé. En France, on est encore autour de 70% des déchets alimentaires qui sont brûlés, incinérés ou enfouis, en général incinérés, et c'est vraiment dommage parce que c'est 80% d'eau, 85% d'eau, comme nous, hein, on est essentiellement constitué d'eau, donc les déchets alimentaires sont des déchets organiques, c'est la même chose. Donc on fait chose avec un fort impact, et donc le modèle, c'est de dire OK, on va collecter ces déchets alimentaires de manière séparée. En France, il y a une loi qui nous aide à faire ça, puisque depuis 2024, tout le monde est obligé de le faire. C'est la loi AGEC qui impose notamment le tri et la valorisation des biodéchets. Donc les collecter séparément et les valoriser sur des plateformes de compostage pour en faire ce fertilisant. Ce fertilisant, c'est un amendement qui est vraiment, moi je dis magique, hein, on adore ça évidemment, c'est notre passion, c'est de dire comment on peut faire avec cette manne de déchets alimentaires qui puent, qui sont plutôt une gêne qu'autre chose, en faire cette ressource qui a une telle valeur pour les sols, parce que elle met de la vie, c'est la première chose évidemment, donc de la matière organique, mais aussi il y a plein d'autres vertus. Elle aide à retenir l'eau, elle rafraîchit les sols, elle permet de retenir justement l'eau pour pas qu'elle parte, qu'elle s'en aille, comme c'est souvent le cas quand il y a des grandes pluies, etc. Elle change la structure, elle améliore la structure des sols.
D'accord.
Son pH, etc. Donc, c'est vraiment une source d'équilibre et une source de vie pour les sols. C'est les sols, on marche tous les jours dessus, on n'y pense plus. Mais en France encore, c'est vrai que j'ai des chiffres plutôt France, on dit qu'il y a un département français qui disparaît tous les 15 ans parce que, en termes de sol, parce que c'est artificialisé ou parce que il y a plus de vie dedans, parce qu'on a tué le sol, etc. Donc, c'est un vrai sujet important.
Et ça s'applique à n'importe quel, ça s'applique à n'importe quel type d'agriculture. Ça peut s'appliquer à n'importe quel type d'agriculture, cette valorisation.
Le compost, oui.
Je pense notamment à l'agriculture intensive.
Oui, tout à fait. Ça peut par exemple être mis sur les sols pour faire des couverts végétaux. On parlait justement Patrick Valmarie. Ça peut être pour remettre de la vie, remettre des micro-organismes, remettre du. Ça s'applique à toute agriculture, évidemment. D'accord. Après, l'avantage du compost, c'est que c'est utilisable en agriculture biologique. Enfin, ça dépend du compost. Il y a plusieurs types, mais nous, en l'occurrence, on fait un compost qui est analysé et qui est utilisable en agriculture biologique. Donc, c'est quand même une des façons, comme je disais, de régénérer l'agriculture, enfin de faire de l'agriculture régénérative, mais aussi de développer et d'alimenter des alternatives pour des agricultures plus respectueuse du vivant et de la planète.
Mmh. Et je crois, si je ne me trompe pas, que vous avez gardé le lien avec La Réunion, que vous êtes aussi chargé de développer l'activité toujours à La Réunion, ou je me trompe?
Oui, je continue. Ben, c'est moi qui ai créé l'entreprise. Donc, je disais, c'est ces entreprises
vous
indépendantes.
Vous y retournez de temps en temps, toujours.
Oui, je continue à être président de cette structure-là. J'y retourne pas fréquemment. Hein. Je travaille avec l'équipe à distance beaucoup, mais j'y retourne moins d'une fois par an. J'essaye de très peu prendre l'avion en général, de toutes les façons. Donc, c'est plutôt... Et puis, l'équipe est assez autonome, est très autonome. Mais...
Petit aparté sur la Réunion. Comment l'avez-vous vécu, cette île ? Qui est donc, je le rappelle, une île qui fait partie de la France.
Exactement. C'est une super parenthèse pour nous. Alors, ça aurait pu durer. Hein. Finalement, on s'est dit, on a ressenti le besoin de rentrer pour des raisons plus personnelles et familiales, comme je le disais. Mais c'est un peu hors du temps. Je sais que vous êtes déjà allé vous-même. Donc, je ne sais pas, pour les auditeurs qui sont allés, ils voient bien ce que je veux dire. C'est un endroit qui est magnifique, une île qui en plus a beaucoup de diversité, hein, à plein d'égards. C'est pas que l'île déserte avec les plages, et c'est même pas tellement ça. C'est plus l'intérieur avec des cirques fabuleux, avec des reliefs incroyables, des cascades, des forêts, des rivières. Enfin, c'est un paysage incroyable. C'est des gens aussi, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voulait y aller. Alors, à part le climat, à qui pour quelqu'un du Sud, c'était important de retrouver un climat un peu plus clément. Mais c'était des personnes qui sont des communautés, évidemment, donc qui sont très différents, très divers. Il y a donc des personnes qui sont issues, beaucoup, hein, la majorité est issue de l'esclavage et qui ont fourni une grosse partie de la population réunionnaise aujourd'hui. Mais il y a des communautés indiennes, des communautés chinoises, évidemment, des Français de métropole, et tout ça avec des religions différentes, avec des coutumes très différentes qui s'expriment de manière très libre, sans aucune entrave et en se comprenant très bien. Et souvent, les familles, d'ailleurs, sont mélangées et ont plusieurs religions, plusieurs façons de vivre, plusieurs couleurs, la nourriture aussi. Il y a tellement de choses, c'est tellement riche sur un tout petit territoire, hein, et en fait, avec pas grand monde, parce qu'il y a 850 000 personnes. C'est magnifique comme endroit, c'est une très belle expérience. Après, pour nous en tout cas, le choix de revenir, c'est que c'est très loin, c'est ça, c'est qu'il faut, si on veut revenir, si on veut voir les proches, c'est 10 000, 11 000 kilomètres qu'il faut faire plusieurs fois par an, et ça on ne voulait plus le faire, on se sentait, c'était un peu difficile pour nous de vivre ça, mais c'est super, magnifique, plein de choses à découvrir, à faire, à voir, vivement d'y aller. Et comme vous dites, c'est la France, donc pour nous, ça a été aussi une des raisons d'y aller, c'est qu'on voulait partir loin, mais sans forcément se retrouver dans une posture complètement expatriée et avec une difficulté de rencontrer et d'être, de se sentir un peu comme les autres, ce qui était possible à La Réunion, puisque finalement, on n'était pas si différents, on était tous différents, mais en tout cas avec des modes de vie qui n'étaient pas déconnectés de la réalité.
Revenons un petit peu, comme vous l'avez proposé, à Tagliare, Fara Frontiere. Quel est le lien, s'il y en a, un ou plusieurs, je ne sais pas, entre ce que vous faites aujourd'hui et Tagliare, Fara Frontiere? Pour vous, et où sont-ils? Où est le lien?
Ah, il y a un très grand lien, beaucoup de liens. Alors, comme je le disais, Tagliare, pour resituer, c'est une association d'insertion par activité économique. Mais donc les activités réalisées par l'association, ce sont toutes, ou en tout cas c'était toutes, et puis en tout cas majoritairement, des activités liées aux déchets, donc au réemploi et au recyclage des déchets. On a commencé avec les déchets électriques et électroniques, donc informatiques principalement. On récupère, on réemploie les ordinateurs pour les donner en général et puis parfois les vendre et alimenter l'activité. activité donc sur les déchets informatiques, sur les déchets de matériel publicitaire. Donc ça c'est Remesh qui on fait des sacs et autres accessoires à partir de bâches publicitaires. Et la dernière activité, bon alors qui est moins liée aux déchets, qui n'est pas liée aux déchets, c'était et c'est toujours la ferme Bio&Co. Où nous avions commencé, alors je ne sais pas où ça en est, parce que justement on s'est rendu compte que c'est pas si facile et que on avait un peu du mal à le faire bien, à faire du compost en collectant des déchets alimentaires avec un gros partenaire qu'on avait avec une enseigne de grande distribution où on collectait les biodéchets pour donner une partie et puis composter le reste. Mais sinon, le projet c'est une ferme où on produit des légumes bio et on les vend essentiellement sous forme de panier à des clients particuliers ou entreprises. Et tout ça, majoritairement, encore une fois, lié aux déchets, et tout ça comme support d'insertion pour des personnes éloignées de l'emploi. Donc, modèle et projet entreprise qu'on a initié en 2008-2009, donc avec Raluca, à l'initiative d'Atelier Sans Frontières. Atelier Sans Frontières qui est elle-même une association d'insertion en France, à Bonneuil-sur-Marne, à côté de Paris, et qui a initié ce modèle-là. Moi, j'avais commencé quelques années au Maroc, à créer Atelier Sans Frontières au Maroc, puis Raluca en Roumanie, que j'ai rejoint pour faire ce sujet. Ce sujet-là, les déchets, l'insertion, l'économie sociale, tout se retrouve différemment, mais tout se retrouve dans les alchimistes. Avec encore un lien supplémentaire, c'est que le fondateur des alchimistes, comme je disais au début, c'est Alexandre Guiluy. Et Alexandre Guiluy, c'était à l'époque le directeur d'Atelier Sans Frontières quand on a créé le Maroc et la Roumanie. Donc on s'est connus à ce moment-là.
Lié au groupe SOS, non, si je ne me trompe pas?
Alors, ça c'est encore une autre étape. C'est-à-dire que nous, quand on est parti de Roumanie avec ma femme, on a souhaité transmettre évidemment, et pas que l'activité s'arrête, parce qu'on partait un petit peu loin et on a plus de contact, on a en tout cas plus de relations fort travail. Donc il fallait trouver une personne, c'était Damien. Aujourd'hui, il est parti aux États-Unis et puis
Damien Thierry.
Damien Thierry, qu'il a transmis également l'association. Mais c'était aussi d'avoir une structure. Et Atelier Sans Frontières en France avait un peu changé son modèle et en tout cas n'était plus dans une optique d'ouvrir des antennes et d'avoir un développement international. Donc il fallait trouver, on souhaitait trouver un groupe qui pourrait pérenniser, assurer et on va dire se rendre plus solide cette entreprise, cette association, ce qu'on appelle ça une entreprise sociale. Et c'était le groupe SOS. Donc, groupe SOS qui, en France, est la première entreprise sociale et qui a souhaité accepter de nous prendre un peu sous son aile pour faire partie du groupe SOS et donc nous accompagner, nous aider. Et puis, c'est encore le cas. Et on en est ravis parce que Atelier Sans Frontières, Atelier Fare Frontiere, donc n'a plus de lien en réalité avec Atelier Sans Frontières, mais fait partie maintenant du groupe SOS et ça apporte beaucoup. Et ça a continué à se développer et se porte très très bien, voire en tout cas financièrement mieux que quand c'était nous qui la gérions. Et puis avec toujours les mêmes valeurs et toujours une grosse partie de la même équipe qui est toujours aussi motivée. Ça fait vraiment très plaisir de voir ça. Pour nous, évidemment, c'était important que ça ne s'arrête pas, vu que c'est pas seulement notre entreprise, c'est pas du tout notre entreprise. C'est une association, on n'a pas d'action à l'intérieur, mais ce qui est fort dans cette association, c'était l'impact social et environnemental qu'elle peut avoir et qu'elle peut faire, et le rayonnement aussi qu'elle peut apporter autour d'elle, ce qui a été le cas. Donc, ces mêmes ingrédients-là sont chez les alchimistes, puisque c'est une entreprise sociale. Elle a une raison d'être forte et elle est toujours liée à la valorisation des déchets, là en l'occurrence des biodéchets, donc faire chose avec quelque chose d'utile avec des déchets, donc en transformant en ressources, même idée. Hein. On faisait déjà du compost d'ailleurs, comme je le disais, à TLF, à Fontielé. Et l'insertion, alors c'est plus l'objectif principal, comme c'était le cas pour Atelier Les Fages Frontières, mais ça reste et c'est toujours un point important. C'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise d'insertion, on n'est pas une association d'insertion, les alchimistes, mais on travaille avec, on embauche des personnes issues de l'insertion. Donc pour moi, c'est un peu l'étape d'après, si vous voulez. Et c'est important aussi, c'est-à-dire que faire des emplois tremplin, après, il faut aussi des entreprises qui embauchent des personnes qui sortent de l'insertion. Sinon, bah, ça n'a pas de sens. Et, mmh. et malheureusement, souvent, en France un peu, à La Réunion beaucoup aussi, ça pouvait être des vases clos où les personnes restaient en insertion et faisaient un peu l'aller-retour entre Pôle emploi ou France Travail maintenant et puis des structures d'insertion. Mmh. Il faut les entreprises qui ont cette sensibilité-là, qui acceptent, qui comprennent l'intérêt et la possibilité d'accueillir des personnes vulnérables, éloignées de l'emploi, qui ont des difficultés, des problèmes, qui les embauchent dans des jobs qui sont pérennes, des CDI, et qui sont non délocalisables. Et en plus, tant mieux s'ils sont vertueux et s'ils sont pleins de sens, puisque ça les aide quand même à trouver la motivation pour aller au travail, comme on l'a toujours essayé de le développer chez Atelier Faire-Aventurer. Donc, c'est un peu l'étape d'après, mais on a toujours ces ingrédients-là à des degrés différents dans les alchimistes. Mmh.
Alors, Patrick Aureliagli, pardon, je sais, vous me l'avez dit en préparant cet entretien, que vous n'aimez pas trop parler de vous, mais ça sera quand même, j'ai quand même une petite question sur vous. Nous en parlions notamment quand vous résidiez à Bucarest. Contrairement à la plupart de vos camarades de classe de l'École supérieure de commerce de Paris, hein, la fameuse ESCP où vous avez étudié, vous avez tout de suite choisi de vous orienter vers l'économie sociale. Pourquoi ? Pourquoi avez-vous été différent de la plupart de vos camarades de classe ?
Alors déjà, pas tout de suite, parce que j'ai commencé par de l'entrepreneuriat plus classique. Déjà, j'ai fait des stages assez longs dans des entreprises quand même. Et puis, dans des entreprises, j'ai créé une start-up Internet en l'an 2000, qui n'avait rien de social. Parce que c'était un peu la mode, c'était un peu la bulle et que je trouvais ça intéressant. J'étais à Paris à ce moment-là. Mais ça m'a vite pas comblé, je dirais pas suffi, mais en tout cas, le fait de créer une entreprise, c'était quelque chose de super intéressant et motivant pour moi, mais au bout d'un moment, le fait de pas être suffisamment aligné avec le sens de cette entreprise, de la nature de l'activité de cette entreprise-là, me motivait pas suffisamment à me réveiller tous les matins pour aller chercher de l'argent. Donc, je me suis rendu compte de ça. Et puis, bon, c'était un parcours un peu plus loin. Peut-être que c'est lié aussi. Moi, je suis franco-marocain, donc j'ai toujours été très sensible à la question de la diversité, de l'autre et peut-être parfois de la tolérance, de la justice sociale. Bon, c'est des choses, des engagements aussi plus ou moins politiques, en tout cas qui s'expriment dans l'envie de faire des choses qui ont du sens, le besoin peut-être plus que l'envie. Voilà. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai ressenti le besoin de faire autre chose. Alors à l'époque, comme vous dites, à l'ESCP et puis en général, il y avait beaucoup moins de ce qu'on appelle les bifurqueurs maintenant ou d'entrepreneuriat social qui n'existait peut-être même pas comme mot. Il y avait beaucoup moins d'entreprises qui affichaient ses fondations et ses valeurs. C'était 98, c'était 99, c'était 2000. C'était vraiment pas des années où encore on avait ça. Maintenant, j'étais pas seul, puisque j'ai mentionné Alexandre Guilluy, qui est à peu près la même génération, son frère Thibaut Guilluy, et c'est beaucoup par lui que je suis parti dans cette voie-là. Lui-même a fait le SCP, était dans les mêmes années que moi. Thibaut, c'est maintenant le directeur de France Travail, et c'est quelqu'un qui a créé Atelier Sans Frontières, et c'est avec lui que je suis parti créer le Maroc, en gros. Je lui ai dit, moi, j'ai envie d'aller au Maroc. Donc, c'était aussi comme ça que ça s'est passé. Comme je suis franco-marocain, j'avais envie de retrouver aussi cette partie-là de moi-même. Donc, c'est pour faire quelque chose, pas pour aller dans une entreprise, m'expatrier, mais pour faire quelque chose d'utile à ce pays-là. Et puis, en général, plus généralement, pour peut-être le monde, c'est un peu ça. En tout cas, c'était les idées que j'avais à ce moment-là. Et lui-même, c'est ce qu'il avait commencé à faire, parce qu'il avait créé Atelier Sans Frontières, même depuis les bancs de l'ESCB. Il était très engagé déjà. Et il m'a dit, banco, va au Maroc. On pourrait, avant Atelier Sans Frontières, retaper, réparer du matériel pour l'envoyer sur des projets de solidarité internationale. Et puis là, je lui ai dit, On pourrait peut-être faire les ateliers aussi au Maroc avec de l'emploi, de l'insertion qui pourrait se faire sur place plutôt que d'être que des bénéficiaires. Être aussi, il y a des problématiques liées à l'emploi, à la jeunesse. Et donc voilà, on est parti comme ça. Maintenant, c'est vrai que c'est génial. Il y a plein, quand on dit plein, si on regardait la masse, je pense que ce serait pas si énorme que ça, mais il y a quand même des jeunes, il y a quand même des entreprises qui accueillent des personnes qui ont envie d'avoir un impact un peu que ce qu'ils pourraient avoir dans une entreprise classique. Après, les entreprises, évidemment, ont leur utilité, elles créent de l'emploi, elles créent de la valeur, etc. Donc, il n'y a pas de sujet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. Si tout le monde travaillait dans l'associatif et l'entrepreneuriat social, ça serait pas une bonne solution non plus. Mais oui, pour moi, c'était un besoin. Heureusement, j'ai trouvé d'autres personnes. Il y en avait peu, c'est vrai. Mais quand on fait ces écoles-là, ces grandes écoles, peut-être ça peut être certain. Tout le monde n'est pas forcément en ligne avec le discours dominant. Vous êtes l'élite de la France, vous allez diriger des grandes entreprises et puis gagner plein d'argent. Il y en a qui sont tout à fait OK avec ça. D'autres qui se disent, je sais pas si c'est pour moi. OK, j'ai fait ces études-là parce que c'est le système un peu à la française. Si t'es bon en classe, et on te pousse à aller. Ou alors toi-même, tu te dis, tiens, oui, allons-y. Puis on se retrouve parfois dans des endroits où on n'est pas à sa place parce que on n'a pas envie. Et ça ne veut pas dire encore une fois que c'est pas bien, mais on n'a pas envie de faire de la finance ou du marketing ou du conseil dans des grandes boîtes. Et on a plutôt envie de faire autre chose. Et on a plein de compétences à ce moment-là qu'on peut donner. Et ça, c'est hyper bien parce qu'on a appris des choses, on a appris des langues, on a appris à se débrouiller, on a appris à faire des associations. Donc, on a quand même plein de choses à donner et on peut les transmettre aussi différemment. Et c'est ça, moi, que j'ai fait à ce moment-là, j'ai souhaité faire et que font de plus en plus de jeunes aujourd'hui. Ça, c'est génial.
Mmh. Justement, sur cette question, depuis là où vous vous trouvez, à Nice, dans la région et plus généralement en France et en Europe, est-ce que vous sentez que cette sensibilité dont vous parlez pour le développement social, pour un meilleur environnement, etc., vous le dites, vous le sentez chez les jeunes, mais est-ce que vous direz que vous êtes, depuis que vous êtes revenu, particulièrement et agréablement surpris par ce que vous ressentez depuis Nice, dans la région où vous vous trouvez, mais aussi plus généralement en Europe, par rapport à cette sensibilisation d'essayer de vivre dans un monde plus en accord avec l'environnement?
Alors, plus généralement, oui. En tout cas, au sein du réseau des alchimistes, on est quand même maintenant presque 300 donc un peu partout en France. Et la moyenne d'âge, ça doit être 25 ans. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Moi, je suis de loin le plus vieux. et du coup, c'est très, très, très motivant, ça, parce que tous ces jeunes-là, tous ces gens-là sont très engagés. Donc, c'est une entreprise... ce sont des salariés, ils font un travail de 9h à 10h, mais il y a un engagement dans leur vie. Évidemment, on a des moyens de communication aujourd'hui, des plateformes qui font qu'on échange beaucoup plus que juste le travail. Donc, on sait un petit peu ce que fait tout le monde, comment, quoi. Et on se rassemble très souvent, en tout cas au moins une fois par an tous ensemble et puis très souvent sur des réseaux. Donc la façon de vivre, la façon de penser le monde, la façon de penser son impact, l'ouverture à l'autre, ça me donne beaucoup d'espoir dans ce réseau-là, dans ces jeunes-là qui sont justement d'un peu partout en France.
Mais au-delà mais des vrai, alchimistes.
Donc, voilà. Mais quand je vais au-delà des alchimistes, en tout cas pour parler de ma région, je suis un petit peu moins optimiste, en tout cas un petit peu moins positif malheureusement, parce que ce soit en engagement justement, on travaille avec des clients qui doivent mettre en place des solutions bonnes pour l'environnement, pas évident à motiver, à convaincre parfois, parce que c'est une région alors un peu Bon, est-ce que c'est parce que la moyenne d'âge est plus élevée qu'ailleurs? Est-ce que c'est parce que c'est une région aussi plus de fin de vie, mais où il y a beaucoup de gens qui viennent pour la retraite, et puis beaucoup de touristes, beaucoup de passages, ça brasse beaucoup. Donc c'est une région, en tout cas un département. La région est plus grande, mais en tout cas un département, ce que je connais un peu plus, les Alpes-Maritimes, qui est ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, hein, parce que nous, on connaît évidemment des associations, des personnes engagées, plein de personnes qui s'engagent. Donc il y a ça aussi, mais c'est très marginal quand même. Sur le paysage global, on est quand même plus sur le monde, je ne vais pas dire le monde d'avant, mais sur chacun à son. Et chez lui et chez soi, il n'a pas trop envie d'être embêté parce que c'est une vie à accumuler ou à posséder ou à faire quelque chose, c'est respectable. Et du coup, non, on est moins dans le partage, hein, ça, je vais pas vous le cacher, en tout cas on le ressent moins. Et ça, c'est parfois un peu triste. Mais encore une fois, il y a ça, et c'est l'image des Alpes-Maritimes. Je ne sais pas si c'est l'image des Alpes-Maritimes en Roumanie, mais en tout cas, je pense qu'en France, c'est largement le cas. Ça n'a pas l'image du département le plus engagé socialement en France. C'est la vérité. Maintenant, il y a plein d'exceptions. Alors c'est vrai que des personnes engagées, souvent, c'est plutôt des personnes retraitées aussi, parce que voilà, c'est un peu le panorama. Mais il y a quand même, et puis autour de nous, on a quelques petits collectifs, quelques associations qui font des choses. Et en France en général, oui. Alors je le disais avec les alchimistes, c'était un peu l'exemple pour dire qu'un peu partout en France, quand même, il y a des réseaux, et autour de nous, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, qui ont des choses différentes pour vivre de manière plus cohérente. Ça, c'est génial. Maintenant, d'un autre côté, c'est très peu dominant, quoi. Si je regarde sur mes réseaux sociaux, si je regarde autour de moi, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup, mais dès que j'en sors un petit peu, ou dès que je vois ce qui se passe réellement au niveau mondial, au niveau national, en réalité, ça avance assez peu. C'est souvent l'impression qu'on a. Donc c'est paradoxal. Il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de gens qui font, qui veulent, mais en réalité, le monde n'évolue pas forcément dans le bon sens, et surtout en ce moment, sur plein d'aspects. On se renferme, c'est très agressif, on est vraiment au contraire en train de vivre en communautarisme, on a peur de l'autre de plus en plus, et ça, ça me fait peur, parce que vraiment, c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait qu'on réussisse à dépasser, on n'y est pas.
Mmh. Dernière question, Patrick Ouriagli, donc vous le disiez, votre femme est roumaine, Raluca. Aujourd'hui, votre rapport à la Roumanie, au-delà de cet attachement familial, quel est-il? Et comment vous la voyez depuis Nice?
Oui. Eh bien, alors oui, des familiales, c'est vrai, mes enfants aussi sont à moitié roumains. On y va de temps en temps quand même. Les enfants surtout, ils vont souvent voir leurs grands-parents, ils adorent aller en Roumanie. Les grands-parents sont à côté de Ploiești, ils ont une maison à la campagne, donc ils vont jardiner.
Ah, ils y vont tout seuls, éventuellement.
Ils y vont tout seuls, ils sont grands, d'accord. Ou alors on y va aussi. Mmh. Et on est bien sûr en relation toujours avec eux, on a gardé des amis, ça fait un petit moment. Alors c'est vrai que nous, c'est surtout, même par rapport à la France, quand on est parti à La Réunion, c'était tellement éloigné qu'on a un peu perdu, même avec Atelier Farah Frontiere, puis avec la Roumanie, le lien. Là, on se rapproche, donc on y va plus souvent, on va y retourner cet été. On garde un souvenir. Pour nous, ça a été des années superbes. Alors quand je dis on, c'est un peu différent parce que ma femme est roumaine, donc forcément elle a encore plus d'attache que moi. Mais moi, j'y ai quand même passé 11 ans à des périodes déterminantes, puisque on a créé cette fabuleuse association. Enfin, en tout cas pour nous, ça a été l'expérience de notre vie. Hein, encore aujourd'hui, je pense, d'arriver à créer de rien une association qui était aussi un modèle d'insertion économique qui n'existait pas et donc qui a pu vraiment rayonner, s'agréger aussi avec d'autres acteurs avec lesquels on a fait plein de choses ensemble. Et on a rencontré plein de gens. On garde ça et on garde cette image forte comme un pays où on a pu faire avec les gens dynamiques qui ont voulu changer les choses. Maintenant, aujourd'hui, on a vraiment, je sais pas si on peut dire tourner la page, mais laisser ceux sur place s'en occuper. C'est quelque chose qui était important pour nous. C'était de se dire, OK, il ne faut pas que ça reste, il ne faut pas qu'on reste nous accrochés. Je parle là plus de la TLF à la frontière, hein, je ne parle pas plus généralement de la Roumanie, je ne dis pas ça, mais il faut que l'équipe, que peut-être quand on y était, on avait tendance un peu à étouffer, puisque quand le fondateur est là, la fondatrice, on est très présent, on est toujours. C'est difficile de partir, de lâcher prise. Et là, on a vraiment lâché prise et on s'est rendu compte que ça s'est très très bien passé et que ça s'est développé, que l'équipe a pu vraiment prendre en main, plus incarner ce que nous, on semblait toujours pousser. Mais en fait, c'est plus notre bébé, c'est devenu vraiment, dans le paysage roumain, une organisation qui compte et qui est roumaine, quoi. Alors que moi, je ne le suis pas, même si en effet, encore une fois, ma femme l'est, mes enfants le sont et les grands-parents. Donc, on garde un attachement fort. On a tellement d'endroits qui sont pour nous. Aussi, c'est là qu'on a fait nos enfants, c'est là qu'on s'est marié. Enfin, il y a tellement de choses, évidemment, d'images, d'endroits qui sont pour nous à plus jamais gravés et qu'on revoit avec un énorme plaisir quand on y retourne. C'est un pays magnifique. On essaye de le vendre autour de nous, hein, parce que c'est vrai que c'est pas encore le pays le plus à la mode. Même si ça devrait, on se demande pourquoi ça ne décolle pas au niveau SIC, alors que d'autres pays comme l'Albanie deviennent de plus en plus attirants, les gens y vont, etc. La Roumanie, ça reste encore très, très exotique, très, mais tant mieux peut-être, comme ça, c'est que ce qu'il mérite.
Patrick Obrelagli, merci infiniment d'avoir été au micro du soir. Je crois que beaucoup d'auditrices et auditeurs auront été très contents de vous entendre et d'écouter ce que vous nous avez dit et de nous avoir fait voyager aussi. Hein, la Réunion est très belle région française où vous avez donc vécu et maintenant vous êtes à Nice. Merci infiniment Patrick Obrelagli et mes amitiés à votre femme Raluca.
Merci beaucoup.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir, une émission donc où on a un petit peu soufflé entre ces deux tours de l'élection présidentielle. Je vous souhaite un excellent week-end, Week-end Placoute. Au revoir.
Le micro du soir, Aïch la RFI.